Excellent réveil à tous, il est 8h. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal est présenté par David Decamp. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Et à la une de l'actualité ce matin,
les héros ont la parole. Une femme pompier raconte son corps à corps avec le brasier. Elle était parmi les premiers à entrer dans Notre-Dame en feu. Témoignage dès le début de ce journal. Reconstruire vite, d'accord, mais comment? À l'identique ou plus moderne? Le gouvernement lance un concours international d'architectes. Ils devront plancher sur la nouvelle flèche de la cathédrale. Et puis nous connaîtrons aujourd'hui la sélection du Festival de Cannes. Alors, quelles seront les stars qui fouleront le tapis rouge cette année? Quels films seront en compétition? Les indiscrétions de Mathieu Charrier à la fin de ce journal.
8h12, vous entendrez Vincent Herouette, puisque les Chinois trouvent que nous n'entretenons pas bien notre patrimoine. Explication avec Vincent. À 8h15, Audrey Crespo-Morin reçoit Alexis Corbière, le député de la France Insoumise.
Europe 1.
Je vous présente le caporal-chef Myriam Sudzinski. Elle a 27 ans. Elle est arrivée lundi soir à Notre-Dame parmi les premiers. Elle a combattu le feu pendant 9 heures toute la nuit. C'est un corps à corps dont les pompiers sont sortis victorieux. Et c'est elle qui raconte.
On s'imaginait pas en fait. Les flammes de plusieurs mètres de haut, c'est... Je me suis dit, mais comment on va faire quoi? Déjà, faut savoir que pour monter tout là-haut, c'est dans des escaliers noirs en colimaçon. Très, très étroit avec nos tuyaux, l'aérie, la tenue de feu. Et on a la mission d'établir la lance, d'enrayer les propagations. Mais ça se propageait à une vitesse fulgurante. On est obligé de reculer à chaque fois, on reculait le point d'attaque. Et à un moment, on est obligé de se replier dans l'escalier. On ouvre la porte, on voit la toiture totalement embrasée. Voilà, donc on essaie d'arroser au maximum. Il n'y a rien à faire, tout s'effondre. Quand on voit la vitesse de propagation, avec nos deux petites lances, on se sent totalement ridicule. À un moment, on entend un bruit, mais... un énorme bruit, et apparemment c'était la flèche qui était en train de s'effondrer pas loin de nous. C'est pour ça qu'après on a eu l'ordre d'évacuer d'urgence, parce qu'il y avait un risque d'effondrement. En fait, c'est quand on a quitté les lieux de l'intervention, quand on voit les gens nous applaudir, ça fait bizarre parce qu'on se rendait pas compte. On est rentré à la caserne à 14h du matin, on met la télé. Je commence seulement à prendre conscience en fait, que voilà, j'ai fait le feu à Notre-Dame. Jamais je me serais imaginé faire un feu là-bas.
Le caporal-chef Myriam Sudzinski avec Romain Oquet pour Europe 1.
Elle a 27 ans, bravo, bravo mademoiselle.
Les pompiers qui sont à l'honneur aujourd'hui, une réception est organisée à l'Élysée à midi. Le président de la République recevra une délégation des soldats du feu qui sont intervenus lundi. Mais attention, leur travail n'est pas du tout terminé. Le site n'est pas encore sécurisé. Reportage Mathieu Bock.
Pour les experts, c'est un mikado géant. Même si Notre-Dame est debout, elle reste très fragile. À l'aide de caméras thermiques et de lasers, les pompiers scrutent chaque recoin qui pourrait reprendre feu ou s'effriter. Les pignons, ces voûtes qui forment le plafond de la cathédrale, sont particulièrement scrutés. À 33 mètres de haut, leur équilibre est précaire. Les visites des experts se font donc au compte-gouttes, casque sur la tête, accompagnés obligatoirement par les pompiers. Et dans des zones bien précises, explique le lieutenant-colonel Gabriel Plus, le porte-parole des pompiers.
Alors rentrer dans la cathédrale, aujourd'hui, c'est pas possible. Le pignon nord pourrait être déstabilisé par un coup de vent. Il y a 3 trous béants dans la voûte, donc il va falloir la couvrir. Il va falloir renforcer ces pignons en enlevant un certain nombre de statues qui pouvaient alourdir ce pignon et donc provoquer sa chute. L'échafaudage, c'est un point de vigilance. Plus le temps passe, moins il y a de risque, parce que la structure métallique de cet échafaudage a été sévèrement déformée. Et maintenant qu'il est froid, il ne bougera plus. Maintenant, il s'agit de savoir comment on va le démonter en abîmant le moins possible la structure et notamment la voûte.
Tant que la cathédrale n'est pas sécurisée, une 60aine de pompiers se relaie 24 heures sur 24 pour la surveiller et personne ne sait pour le moment quand pourront débuter les premiers travaux de consolidation.
Reportage signé Mathieu Bock pour Europe 1.
Et la femme pompier de 27 ans qu'on a entendue au début de votre journal en parlait, la fameuse flèche.
Oui, c'est l'image qui s'est gravée dans nos rétines, dévorée puis s'effondrant dans le fracas épouvantable d'une explosion de braise et de cendres. Eh bien, cette flèche, nous la reconstruirons. Mais sous quelle forme? À l'identique, plus moderne? Pour répondre à ces questions, le gouvernement lance un concours international d'architecture, une excellente initiative aux yeux du chargé de mission patrimoine. Stéphane Bern nous rappelle que la flèche a évolué tout au long de l'histoire de la cathédrale, notamment sous le coup de crayon de l'architecte Viollet-le-Duc.
Vous savez que la flèche a toujours existé. Il y a toujours eu une flèche sur Notre-Dame. Mais Viollet-le-Duc, quand elle a été dégradée après la Révolution par les émeutes de 1830, eh bien Viollet-le-Duc l'a voulu beaucoup plus haute. Et elle est montée à 93 mètres. Eh bien, voilà, il a été proposé que ça soit une reconstruction, on reconstruise, mais que peut-être il y aura un projet architectural, la question est ouverte, a dit le président, et je crois qu'il a raison, après tout, il n'y a aucune raison aujourd'hui de fermer cette hypothèse qu'il y ait un concours d'architectes pour rebâtir la flèche, peut-être exactement comme elle l'était. La question se pose.
Stéphane Bern avec Jean-Rémy Baudeau pour Europe 1.
On a beaucoup parlé ces derniers jours du financement et de ces dons spectaculaires qui ont atteint le milliard d'euros. Mais s'il y a une institution qui ne participera pas, c'est l'Église catholique, David.
Oui, le Vatican l'a annoncé hier et au fond c'est logique puisque depuis la loi 1905, c'est l'État français qui est propriétaire des cathédrales. Et à ce titre, c'est à lui qu'il revient d'assurer rénovation et reconstruction. Pierre Herbulot.
Pas un euro ne sortira des banques du Vatican. La raison est assumée, la France est un pays laïque, elle a choisi en 1905 la séparation de l'Église et de l'État, c'est ce que rappelle le cardinal Rivasi, en quelque sorte ministre de la Culture du Saint-Siège. La cathédrale est la propriété de l'État français qui fait payer une partie de la visite, justifie-t-il. Sous-entendu, c'est à la France et non à l'Église de payer pour la reconstruction. Le Vatican se contente donc de proposer une expertise technique et scientifique. Il s'agirait d'envoyer des professionnels de la restauration habitués à travailler dans les musées du Saint-Siège. Une visite du pape François pour soutenir les fidèles n'est pas non plus à l'ordre du jour, malgré les invitations répétées de l'Élysée. La faute à un agenda très chargé en pleine semaine sainte, fait savoir une source vaticane. Pourtant, autour du souverain pontife, certains voyaient dans ce déplacement l'opportunité de retisser le lien avec les catholiques français, notamment après l'affaire Barbarin.
Pierre Herbulot pour Europe 1. 29 touristes allemands ont été tués hier dans un accident de bus au Portugal, selon un bilan provisoire. Les faits se sont déroulés sur l'île de Madère. Une cinquantaine de personnes voyageaient à bord de l'autocar lors de l'accident.
La suite du journal avec David Doucan. Ça y est, dans deux mois, le 17 juin exactement, ce sera la première épreuve du bac.
Oui, on peut dire qu'on entre dans la dernière ligne droite et vous allez voir que les méthodes de révision ont beaucoup changé par rapport à notre époque, surtout la vôtre d'ailleurs, Nikos, comme nous l'explique notre spécialiste éducation Virginie Salmen.
Étudier dans sa chambre, seul, en silence, plus personne ne fait ça, à entendre ses trois copines de 18 ans, élèves de terminale, Jade, Lara et Elma. Elles vont soit à la bibliothèque, soit l'une chez l'autre, mais toujours en groupe.
Être tout seul, c'est bien, mais au bout d'un moment, on tourne en rond, on a relu le cours et tout, on peut le rester à personne. Être en groupe, c'est mieux. Genre.
Je peux pas travailler toute seule parce que j'ai la tentation du téléphone, justement, et ça me perturbe. Du coup, j'arrive pas à me concentrer et je préfère travailler en groupe pour mieux comprendre.
Pareil, parce qu'il y a la télé, la famille, et tout chez nous, préfère bibliothèque.
Donc réviser ensemble, en groupe de 3, 4, 5, souvent avec des amis, plutôt que de simples camarades de classe, ça s'explique par le besoin qu'ont les jeunes de cette génération d'être rassurés. Ils ont reçu une éducation non pas collective, mais individualiste, nous dit la psychopédagogue Brigitte Pro, et ils souffrent de solitude.
Ils en parlent énormément, et du coup, ils ont un besoin de collectif immense, comme jamais auparavant.
Tous les lycéens qu'elle accompagne lui disent aussi qu'ils ont beaucoup besoin de leurs parents dans cette période de révision, pas forcément toujours derrière leur dos, mais qu'ils soient là quand ils ont besoin d'aide.
Enquête signée Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1.
Nous connaîtrons le programme de la 72e édition du Festival de Cannes ce matin.
Oui, conférence de presse à 11h de Thierry Frémaux et Pierre Lescure. Ils annonceront la sélection officielle. On sait déjà que c'est un film de zombies qui ouvrira le festival, le dernier Jim Jarmusch. Mais pour les autres, le suspense reste entier, sauf pour notre critique cinéma, Mathieu Charrier, qui a toujours de bonnes indiscrétions.
Beaucoup d'habitués et de stars, voilà en résumé ce que l'on attend des annonces de ce matin. Des habitués donc d'abord avec le possible retour sur la croisette de Ken Loach, déjà palmé deux fois. Son nouveau film raconte l'histoire d'un couple modeste qui tente de survivre. Xavier Dolan, le prodige québécois, pourrait également concourir avec Mathias et Maxime. On attend aussi les frères Dardenne avec leur film sur la radicalisation d'un adolescent belge ou le japonais Koreeda, Palme d'Or l'an dernier. Il devrait présenter La Vérité tournée à Paris avec Catherine Deneuve. L'actrice française, premier nom d'une longue série de stars annoncées sur la croisette, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio notamment, seront-ils là pour le nouveau film de Quentin Tarantino ? Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant aussi viendront-ils présenter la suite du légendaire Un homme et une femme de Claude Lelouch, Palme d'Or il y a 53 ans. Du côté des Français, justement, on attend en compétition l'habitué Arnaud Desplechin, Bruno Dumont, Guillaume Niclou avec Gérard Depardieu et Michel Houellebecq, Céline Sciamma, Justine Trier ou Rebecca Zlotowski pourraient compléter la sélection. Rebecca Zlotowski qui a filmé l'ancienne escort girl Zaya pour son film Une fille facile.
Mathieu Charrier du service culture d'Europe 1. La 72e édition du Festival de Cannes se tiendra du 14 au 25 mai. C'est sur Europe 1, bien sûr, que vous la suivrez avec un journal de Cannes que nous vous préparerons tous les jours à 8h30. J'ajoute qu'Alain Delon recevra à cette occasion une palme d'or d'honneur. La chanteuse Nathalie Dessay, le trompettiste Ibrahim Malouf, l'accordéoniste Richard Galliano et beaucoup d'autres étaient hier soir sur la scène du Grand Rex à Paris. Concert hommage à Michel Legrand. Il était initialement prévu que le compositeur y participe, il nous a malheureusement quittés. Mais malgré son absence, l'ambiance était festive. Reportage Thierry Geffrotin.
La fête avec la musique de Michel Legrand, bien sûr, et son big band avec lequel il a si souvent joué. La fête avec des anecdotes racontées notamment par son fils, Benjamin.
Cette chanson que je viens de vous chanter, mon père me l'avait offerte un jour pour mon anniversaire et c'était un grand moment.
Et par son biographe, Stéphane Lerouge.
Il adore notamment cette phrase, ne regardez jamais quelqu'un qui joue du trombone, ça peut m'inciter à continuer.
Mais surtout, beaucoup de musique interprétée par une dizaine d'artistes. L'accordéoniste Richard Galliano. La chanteuse Nathalie Dessay. Et finalement, pour se quitter, après 3 heures d'hommage, la mélodie la plus joyeuse qui soit.
Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1.
Et on entend la trompette d'Ibrahim Malouf.
Ah oui, bien sûr.
Quelle signature.
Bien sûr. La liberté de la presse continue de se dégrader dans le monde. Selon le rapport 2019 de Reporters sans frontières, il y a toujours moins de zones sûres pour les journalistes. Seulement 24% des 180 pays étudiés affichent une situation bonne. C'est 2% de moins que l'année dernière. Nouvelle défaite, Nikos, pour le Paris Saint-Germain. Hier, battu 3-2 à Nantes, les Parisiens qui laissent échapper une fois de plus le titre de champion de France. Ce sera sans doute pour la prochaine fois. En tout cas, c'est ce que l'on peut leur souhaiter. Puis quart de finale, retour de la Ligue des Champions. Tottenham s'est qualifié malgré sa défaite hier soir face à Manchester City, 4-3. Liverpool a battu Porto, 4-1. Et donc les demi-finales, Liverpool-Barcelone et Tottenham affrontera l'Ajax d'Amsterdam.